La parlementarisation du régime s'emballe alors que les séquences sans précédent s'enchaînent. Cette semaine, le Rassemblement national a réussi pour la première fois de son histoire à obtenir une majorité sur un texte qu'il proposait, en l'occurrence sur la dénonciation des accords de 1968 avec l'Algérie. Simple résolution, certes, mais qui marque encore un peu plus la fin du cordon sanitaire. De l'autre côté, la négociation du budget se poursuit avec des textes votés simultanément par le Rassemblement national et le Parti socialiste. La taxe Zucksmann, version pure ou allégée, a été rejetée, mais la situation politico-financière du pays continue d'évoluer de manière inquiétante, tandis que le cornu envisage encore, en revenant sur le gel des pensions, de faire payer les actifs pour les retraités et que la foire aux taxes continue de plus belle. Cette semaine a été un véritable tourbillon parlementaire. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 1er novembre 2025, il est 21h34. Bienvenue dans cette émission hebdomadaire qui sera suivie du live privé des souscripteurs, naturellement, pour prolonger et approfondir le débat en répondant aux questions de nos chers abonnés. Je répondrai aux questions des visiteurs qui feront un petit don dans le courant de cette émission. Je vous salue tous, désolé d'avoir dû reporter cette émission que j'avais prévu de faire hier soir à la base, mais bon, j'étais de permanence garde à vue, il faut quand même que je gagne ma vie, donc j'étais pas là. Malheureusement. Et je suis un peu fatigué parce que j'étais donc une partie de la nuit, j'étais encore ce matin, donc le week-end est court, décidément, cette semaine. Mais on a quand même assez d'énergie pour parler de la situation qui nous intéresse cette semaine, et c'est de ça que je voudrais parler un petit peu comme d'habitude, en parlant un petit peu du contexte politique lui-même, et en essayant de trouver encore une fois quelques petits insights historionomiques là-dedans, pour essayer d'y voir plus clair et de comprendre où nous en sommes. Alors, les actualités. Première actualité importante, qui sera celle sur laquelle je reviendrai sans doute ensuite, parce que c'est celle qui, à mon avis, est la plus intéressante et la plus significative, c'est effectivement le vote de cette résolution du Rassemblement National à propos de la dénonciation des accords 68, pour laquelle un certain nombre de figures politiques avaient déjà dit qu'elles étaient favorables à au moins la renégociation de ces accords. C'est débattu. J'ai eu du mal à savoir exactement où en étaient ces accords. Vraisemblablement, d'après j'ai trouvé un tableau qui était le plus intéressant et à mon avis qui avait l'air le plus cadré, qui exposait que les Algériens bénéficiaient encore d'un certain nombre d'avantages, par exemple des durées de résidence nécessaires moins longtemps, moins de contrôle sur les visas, plus facile d'obtenir un titre de séjour longue durée par mariage, etc., moins de contrôle sur les mariages blancs, un regroupement familial plus étendu aussi. Donc même, semble-t-il, ceux qui disent que les accords ont été vidés de leur substance, pour l'essentiel depuis lors des diverses refontes ces 50 dernières années, c'est visiblement pas tout à fait vrai, ou en tout cas ça reste en tout cas avantageux pour l'Algérie. Au-delà de la question elle-même, sur laquelle je reviendrai justement, de ce lien avec l'Algérie, parce que ça me paraît intéressant à ce stade de la dynamique révolutionnaire, on va dire. Déjà la première chose, effectivement, c'est que c'est le cordon sanitaire qui s'efface un petit peu plus, et ce à quoi font écho des sondages qui s'accumulent. J'en ai vu deux notamment, un dont j'ai pas gardé la référence, c'est bête, mais le nombre exact, c'est légèrement en dessous de 50% des gens qui pensent que le Rassemblement National va être amené à gouverner, de toute façon. Et celui-là, j'ai le chiffre, c'est 54% des Français qui se disent prêts à voter Rassemblement national. Donc là, on arrive quand même sur une rupture du cordon sanitaire, d'autant plus qu'on sait que des sondages ont montré que la volonté de faire barrage n'était plus considérée comme une bonne idée par une majorité, en tout cas pas par une majorité nette de Français. Donc, il y a une évolution dans ce sens-là, qui est évidemment favorable au Rassemblement national, mais c'est intéressant de voir que il a réussi aussi à faire cette percée parlementaire dans le cadre d'un vote. Alors avec une majorité courte, ça n'a été possible que parce que tous les députés n'étaient pas là, naturellement, mais cette majorité a été obtenue et cette résolution a été votée. Et il faut bien comprendre les implications de tout ça en allant lancer un petit peu en profondeur, c'est-à-dire que il faut vous rendre compte que ce résultat, qui est important parce que même si c'est une résolution qui n'est pas contraignante pour l'exécutif, c'est une résolution qui va à l'encontre de l'idée qu'on se fait du régime ou que certains se font. D'ailleurs, j'ai vu dans la presse des hauts fonctionnaires ou des membres de l'administration présidentielle interrogés qui étaient choqués, qui en gros expliquaient que le Parlement se mêlait de ce qui ne le regardait pas, parce que finalement, en donnant son avis là-dessus, eh bien, le Parlement touche au pseudo, en tout cas, domaine réservé du chef de l'État. Naturellement, sous prétexte que le chef de l'État en France, comme dans tous les autres pays, signe les traités, on part du principe que la politique étrangère lui revient, ce qui est faux. Mais c'est une habitude qui est bien ancrée, à laquelle les gens finissent par croire, notamment parce qu'il y a une formule, justement, domaine réservé. Donc des fois, parce que le terme existe, les gens croient que la chose existe. Alors qu'en fait, il n'y a rien de tel que le domaine réservé. Normalement, le président ne devrait avoir aucune espèce de domaine réservé. C'est le gouvernement qui doit faire la politique étrangère de la nation à travers son ministère des Affaires étrangères. C'est pour ça qu'on a un ministère des Affaires étrangères, hein, et que c'est pas juste le cabinet du président qui décide. Mais c'est intéressant que ça soulève cette hargne de la part des soutiens du président, et c'est intéressant que ça les soulève dans une circonstance qui est celle d'une niche parlementaire. Parce qu'il faut bien voir que c'est là qu'est le truc. Il faut vous rendre compte d'une chose. Vous savez, souvent je vous fais le parallèle, je vous explique ça, avec justement ce qui s'est passé avec la révolution ukrainienne 2014, c'est que il y avait déjà eu un mouvement pré-révolutionnaire avec la révolution orange en 2004, qui avait donné lieu, 2005, 2004, 2000, je m'y perds tout le temps, 2005, oui c'est 5 ans maintenant, qui avait donné lieu à une réforme qui est la réforme constitutionnelle qui diminuait les pouvoirs de la présidence au profit du Parlement. Hein. Simplement, cette réforme a été ensuite abrogée en 2010 par la Cour constitutionnelle ukrainienne. Et c'était une des revendications des manifestants du Maïdan que de rétablir la réforme de 2004. C'était 2004, bon, on cherchera. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chez nous, une réforme un petit peu équivalente a été faite en 2008. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait ce parallèle-là. C'était la réforme Sarkozy. Qui était censé redresser les pouvoirs du Parlement, justement, ce qui encore une fois cadre avec le fait que la révolution aurait dû avoir lieu sous Sarkozy. Je ne reviens pas sur le détail, vous irez voir les anciennes émissions où j'expliquais ça. Mais en 2008, donc outre l'évolution sur les cavaliers législatifs, un certain nombre de choses, il y a eu cette création qui visait justement à renforcer le pouvoir du Parlement, et non seulement du Parlement. De la majorité parlementaire, mais aussi de l'opposition au Parlement. C'est ça qui est important. C'est pour ça que cette réforme est importante. C'est cette réforme qui a mis en place la niche parlementaire. Avant, ça n'existait pas. Avant, il n'y avait pas de jour réservé à l'opposition où elle pouvait décider de présenter ses propres textes et les faire voter. Ça a été instauré par la réforme 2008, qui était une bonne réforme de Nicolas Sarkozy. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit maintes fois, elle a souvent été très mal implémentée, notamment parce qu'elle était en partie non prise en compte par le Conseil constitutionnel, ce qui est un gros problème. Et ce qui est un objet d'ailleurs du contentieux entre certaines figures, notamment Gérard Larcher et le Conseil constitutionnel, parce que Gérard Larcher est très favorable à cette réforme de 2008, qui était une époque à laquelle il était d'ailleurs dans le gouvernement de Sarkozy, je crois. Où il était déjà président du Sénat. C'était sous Villepin, je crois, qui était ministre. Bref. Donc c'est important, parce que ça veut dire que c'est une des évolutions des réformes parlementaires faites sous Sarkozy, qui relevaient déjà un petit peu du pré-révolutionnaire, qui ont permis justement ce travail parlementaire du Rassemblement national, et d'arriver à obtenir un vote. Donc, si vous voulez, il y a une cohérence dans tout ça, c'est-à-dire dans la réforme, la transformation institutionnelle, les succès qu'elle permet d'engranger et les mutations qu'elle entraîne, justement, dans le jeu parlementaire. S'il n'y avait pas eu la niche parlementaire, le Rassemblement national n'aurait pas pu faire ça. Or, en faisant ça, en obtenant ce vote, il a progressé, il a cassé quelque chose. Il a réussi à le faire voter avec les LR, mais aussi avec Horizon. Ça qui est très important. Donc vous avez même des centristes qui s'y rattachent. Donc, progrès du rôle parlementaire du Rassemblement national, clairement, à travers cette formation-là. Sur le sujet lui-même de l'Algérie, je dis que j'y reviendrai après. Je vais commencer purement par l'actualité parlementaire, c'est ça qui me paraît intéressant. Donc voilà, évolution du parlementarisme, évolution du parlementarisme en plus sur un texte qui va contre les prérogatives du président de la République. Dans le cadre de l'évolution du parlementarisme, je le dis maintenant parce que j'ai peur de l'oublier, c'est pas au cœur du sujet, mais il y a autre chose. Emmanuel Macron continue de s'enfoncer dans les sondages puisqu'il n'a plus que 11% de confiance maintenant. Il égale le record négatif de François Hollande au pire moment, sauf que lui, il lui reste un moment à tirer virtuellement. Donc on continue à aller dans ce sens-là. La crise ne lui permet pas du tout d'essayer de se refaire la cerise au plan, sur le plan de la réputation, et vraisemblablement que ça ne s'améliorera pas dans les semaines qui viennent avec la poursuite des négociations sur le budget. Alors justement, on en vient aux négociations sur le budget, parce qu'il faut comprendre que la niche parlementaire du Rassemblement national, c'était justement une interruption dans le budget, parce que comme il y avait la niche parlementaire, on ne discutait pas du budget ce jour-là. Bon. Ensuite, on s'est remis à discuter le budget. Et qu'est-ce qui s'est passé vendredi ? Il s'est passé ce dont j'avais parlé la semaine dernière, parce que le Parti Socialiste avait tenté de faire pression en agitant la menace de censure, en disant « il y a un moment où il va falloir que vous acceptiez de négocier au centre, et donc de voter certains de nos textes ». Et donc ils avaient dit que la taxe Glucksmann, ça serait assez décisif. Donc ils ont proposé à la fois la taxe Glucksmann et la taxe Glucksmann allégée, alors qui était allégée, semble-t-il, à cause de ces exemptions, mais enfin, qui multiplie par plus de 10, parce qu'il a baissé d'un facteur 10 l'assiette, puisque c'était les gens qui avaient 10 millions de patrimoine au lieu de 100 millions, et qui a augmenté en plus de 50% le taux, hein, puisque c'était de 2 à 3%, donc ça paraissait quand même, c'était pas tellement allégé. Mais le fait est que cette taxe n'est pas passée, dans aucune de ces deux formes. Et pourtant, on a un Parti Socialiste qui censure toujours pas. Comment se fait-il qu'il ne censure pas ? Il y a eu un déjeuner avec Olivier Faure, Boris Vallaud et Le Cornu. Décidément, à chaque fois, il y a des déjeuners entre eux. Au terme duquel, comme d'habitude, Olivier Faure a dit qu'ils n'avaient pas trouvé d'accord, que ça n'avait pas abouti. Mais finalement, à la fin de la journée, vous vous trouvez avec un Le Cornu qui lâche vaguement un truc et Olivier Faure qui a l'air de s'en contenter. Donc c'est une séquence qu'on commence à comprendre et à voir se reproduire. Hein. Qu'est-ce qu'a lâché Le Cornu ? Il n'a pas lâché sur les taxes. Il a lâché sur, et là c'est le cauchemar pour nous tous, il a lâché sur la réindexation des pensions de retraite et des prestations sociales. Alors, bon, les prestations sociales, on peut en discuter. Sur les pensions de retraite, c'est cauchemardesque. Parce que je vous parlais de la semaine dernière, c'était l'éclaircie, l'idée que ça y est, on basculait vers cette idée que il allait commencer à falloir payer les retraités, et tout ce qu'obtient le Parti Socialiste, c'est de revenir là-dessus. Alors que, chose intéressante, dans la même journée, que c'était vendredi matin, les écologistes et les communistes avaient annoncé qu'ils ne voteraient pas la suspension des retraites. Alors ça, c'est également assez fort. Et pourquoi ils ne voulaient pas la voter ? Parce qu'ils estimaient que le coût, que c'était mal foutu, que c'était qu'un décalage, et qu'en fait, c'est pas suffisant. Donc là-dessus, malgré tout et encore, faudra voir si le Parti Socialiste est seul sur cette question à la fin. Mais c'est gênant. C'est gênant pour la stratégie du Parti Socialiste, qui cependant a l'air, moi très honnêtement, censure la semaine prochaine, j'y crois pas. À ce stade-là, quand on écoute Olivier Faure, il avait l'air il vendait encore la réindexation des retraites comme une victoire, hein. Donc, à partir du moment où vous vendez le truc comme une victoire, alors il a répété son truc comme quoi, mais ça suffit pas, il va falloir que vous fassiez des compromis sur la fiscalité, tout ça. Mais enfin, à chaque fois, on a l'impression qu'ils mettent un ultimatum et qu'ils reviennent dessus. Alors, je veux pas trop faire du commentaire politicien pendant trop longtemps, hein, parce que tout ça, vous l'avez vu comme moi. En revanche, ça, pour le coup, ça maintient, ça a un effet de poursuite du pourrissement dans l'opinion. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, même si, d'après ce que j'ai vu, d'après un sondage, l'électorat propre du Parti Socialiste soutient le Parti Socialiste, c'est-à-dire la majorité des gens pensaient que qui soutiennent le Parti Socialiste pensent qu'ils ont bien fait de ne pas censurer. Alors je ne sais pas s'il y a eu de nouveaux sondages sur le fait de est-ce que là maintenant il faudrait censurer parce qu'il n'y a pas eu la taxe Zucman, mais c'est la grande question. Donc de toute façon c'est très difficile, comme je vous l'ai dit, d'anticiper quoi que ce soit à ce stade. On peut simplement observer ça et voir quand même un certain nombre de choses intéressantes. Je disais, à propos du vote de la résolution du Rassemblement National, vous avez eu le détachement d'une partie de la donc du centre à travers Horizon en direction du Rassemblement National, même si le MoDem et Renaissance n'ont pas voté. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Renaissance et le centre a toujours refusé de voter précisément les deux versions de la taxe Zucman, alors qu'on disait que leurs électorats y étaient également très favorables. Et malgré ça, ils l'ont refusé. Et le sentiment que ça donne, malgré tout, c'est que vous avez bien cette recomposition entre droite et gauche qui se poursuit. C'est-à-dire que les gens, le fait que le centre soit de plus en plus affaibli comme force en soi, de plus en plus ramène ce qui est un clivage normal, c'est-à-dire oblige les centristes à décider s'ils sont plutôt de droite ou plutôt de gauche, plutôt centre-droite, plutôt centre-gauche. Et à terme, vraisemblablement, ça va amener à une sorte d'élimination, justement, du centre comme force. On reviendra probablement aux choses d'avant. Ou en tout cas, comme force qui cherche à gouverner au centre. C'est-à-dire le centre, vraisemblablement, pourrait redevenir une force d'appoint pour donner ou pas une majorité à droite ou à gauche. Mais comme force dirigeante du gouvernement, qui s'adjoint le centre droit, le centre gauche pour gouverner, je pense qu'on va s'en éloigner progressivement et ça serait un retour à la normale. Parce que quand vous avez un pays qui est clivé normalement, vous avez le centre-gauche ou le centre-droit qui dirige, mais le centre pur, normalement, est juste là pour servir de supplétif à l'un ou à l'autre. Et je pense qu'avec les débats sur le budget, on va voir ça émerger petit à petit. Alors maintenant, il y a d'autres questions quand même que je voulais aborder à propos de cette question du budget, que je trouve super, super choquante, qui est que pour moi, un budget, ça devrait se discuter dès le 1er janvier. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens maintenant qui expliquent que le Parlement n'est pas capable de construire un budget. Si, il est capable de construire un budget, même si normalement, il devrait avoir à la base un brouillon d'un gouvernement qui ressemble déjà à quelque chose. Bon. Mais le problème, c'est qu'on continue à faire des budgets 5ème République, comme s'il y avait le 49-3, alors qu'on renonce au 49-3. On présente un budget en retard et on dit aux députés qu'ils doivent s'entendre dessus. Et moi, ce qui me gêne surtout dans le fait qu'on s'y prenne pas plus tôt, prenez Bayrou par exemple. Bayrou, il a fait son premier budget au mois de janvier dernier. Il aurait dû se dire tout de suite, le prochain budget va être un cauchemar, on va s'y mettre tout de suite. On va commencer à discuter. Non, il a attendu jusqu'au mois de juillet. Catastrophe. Bon. Et en plus, derrière ça, ça laisse entendre l'idée que le Parlement a mieux à faire pendant les trois quarts de l'année que de discuter du budget. Or, réfléchir sur le budget, justement, c'est la première fonction du Parlement. C'est à ça qu'il devrait occuper les trois quarts de son temps. Faire passer une loi euthanasie ou un truc comme ça, il devrait le faire sur son temps libre, en fait, le Parlement. C'est pas ça sa priorité. Et sur cette transition, on n'y est pas encore. Ça sera intéressant de voir en 2026 si, après cette expérience-là, on repart sur une gestion habituelle du « on laisse filer », ou si, dès le premier trimestre, on voit des gens qui commencent à parler de budget. Ça serait intéressant. Ça serait aussi probablement un signe supplémentaire de reparlementarisation. J'ai vu quelqu'un qui disait pendant que je parlais qu'Olivier Faure disait qu'il fallait attendre les prochaines échéances électorales. Alors, le truc, c'est que les prochaines échéances électorales, c'est essentiellement les... municipal, et comme je l'ai dit la semaine dernière, le problème du municipal, c'est qu'il faut quand même pas y arriver à poil. Il faut, pour le Parti Socialiste, il faut y arriver avec des résultats tangibles qui puissent vendre à leur électorat, mais à l'électorat de gauche dans son ensemble, c'est-à-dire y compris celui qui n'est pas typiquement leur électorat. Et s'ils ont lâché l'alliance, et même peut-être torpillé, même si on sait que la gauche est toujours capable de s'allier au dernier moment, mais s'ils ont rendu plus compliqué l'alliance avec les écologistes et LFI pour remporter des mairies, et qu'ils n'ont pas les résultats derrière, ça risque d'être assez compliqué. Mais bon, encore une fois, là-dessus, purement et simplement, sur la dynamique budgétaire et la façon dont ça va se régler, il y a énormément de hasard, très difficile de savoir qu'est-ce qui va à un moment choquer. Il peut y avoir des ruptures, des choses qui interviennent rapidement, qu'on ne voyait pas venir, qui sur tel point vont créer un blocage. On n'est pas non plus dans la tête des dirigeants politiques de ce qu'ils font comme calcul. C'est pas possible qu'il y en ait certains qui aient un calendrier en se disant il faudra torpiller à ce moment-là et pas avant pour avoir eu l'air sérieux, tout ça. Donc, on verra bien. En tout cas, clairement, le budget va de plus en plus vers un alourdissement de la fiscalité, ce qui a tendance à énerver l'électorat. Ça, c'est certain. Il y a une chose sur laquelle je ne me prononcerai pas techniquement, mais je laisse à votre sagacité cette idée-là. C'est ce fameux vote, justement, ce qui a été présenté comme un nouvel impôt sur la fortune, voté notamment avec l'aide du Rassemblement national. Alors qu'il semble, d'après certains commentaires que j'ai lus, qu'en réalité, on se retrouve à la fin avec un impôt qui finit par alléger ce qui restait de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière établi par Emmanuel Macron. Parce que comme le Rassemblement national aurait fait ajouter des exonérations dessus, grosso modo, cet impôt serait moins lourd, semble-t-il. Alors, j'en suis, encore une fois, j'ai lu des choses dans les deux sens, donc je ne peux pas être affirmatif. Je laisse ça, encore une fois, à votre sagacité. Maintenant, ce dont je voulais parler sur le fond de cette question de la dénonciation éventuelle des accords de 1968 ou leur discussion sur l'Algérie, qui a provoqué naturellement un gros émoi. Alors à gauche, ça a été tout de suite « c'est raciste », etc. Alors qu'on considérait que les Algériens doivent être traités comme les Marocains ou les Tunisiens, ça n'apparaît pas en soi comme quelque chose de raciste. Surtout qu'il faut quand même prendre conscience aussi des données stratégiques et des données de politique internationale. Quelles sont ces données? Elles sont que nous n'avons pas de difficultés avec le Maroc et avec la Tunisie, ça se passe grosso modo bien, alors qu'on a sans arrêt des problèmes avec l'Algérie. Voilà. Et qu'à un moment, vous ne pouvez pas... Quand vous êtes un État, vous avez une responsabilité d'assertivité. Vous ne pouvez pas vous laisser marcher dessus tout le temps sans jamais réagir. Ce qui est vraisemblablement ce qui est la volonté de la politique présidentielle. Mais ça pose un problème. Mais bon, ça, c'est juste une vision, on va dire, des choses actuelles, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse et dont je vais vous parler. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette idée, surtout, c'est que, au fond, les accords de 68 avec l'Algérie, c'était un moyen de se détacher de l'Algérie sans s'en détacher totalement. C'est-à-dire, c'était le maintien d'un lien avec cet espace-là. Et il faut bien comprendre que dans les premières années, justement, de la mise en place de la Ve République, ça a été l'ensemble de la politique vis-à-vis de l'ancien espace colonial. C'est-à-dire qu'il s'agissait à la fois de décoloniser, c'est-à-dire de ne plus y être et de ne plus diriger, etc., mais à la fois de rester moralement, de conserver les liens, c'est-à-dire de conserver la sphère d'influence, en fait. Hein. C'était ça l'idée, et ça a été le cas avec l'Afrique dans son ensemble, avec la mise en place de ce qu'on a appelé la France-Afrique, hein, naturellement. Mais les rapports qu'on a conservés, finalement, avec l'Algérie, sont un petit peu du même ordre. Hein, c'est-à-dire cette volonté de partir, mais sans partir, garder l'influence, garder cet outil, justement, pour avoir des votes à l'ONU, etc., c'est-à-dire garder en partie l'Empire, malgré tout, d'une certaine manière, tout en étant coupé. Et ça, c'est intéressant, parce que aujourd'hui, en fait, dans cette volonté de dénoncer les accords avec l'Algérie, et de manière plus étendue dans le refus de l'immigration de masse, qui vient de justement tout cet espace africain, il y a quelque chose qui, moi, m'évoque justement ce qu'on trouve dans tous les phénomènes de révolution nationale. Toutes les séquences de révolution nationale sont marquées aussi par, comment dire ça, une espèce de volonté d'accélérer l'homogénéisation de l'État-nation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une dimension identitaire qui consiste à la fois, vous avez la révolution est possible parce que vous avez un espace qui s'est homogénéisé suffisamment pour en arriver là, culturellement, j'entends, et à la fois, la révolution cherche à terminer cette homogénéisation, si vous voulez. Et ça, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire, c'est l'idée de se réunir autour d'une idée identitaire. Et encore, je renvoie, c'est pour ça que souvent ça donne lieu à des épurations ethniques, les révolutions nationales. Si vous prenez les Turcs qui ont génocidé les Arméniens, expulsé les Grecs, etc. Et si vous prenez déjà dans Qu'est-ce que le tiers-état, encore une fois, avec l'idée d'expulser la noblesse vue comme germanique pour se recentrer sur la population gauloise, hein, donc dans Qu'est-ce que le tiers-état de la BCIS, il y a cette dimension ethnoculturelle d'homogénéisation. Et on le trouve partout. Vous le trouvez également dans, cas très simple, la révolution de 1991 en URSS. Je vous ai déjà expliqué que ça, c'était une révolution nationale. Qui consiste en quoi qui est consommée à quel moment? Qui est consommée au moment où la Russie décide de sortir de l'Union soviétique. C'est ça qui provoque la dislocation de l'Union soviétique. Hein. Elle avait déjà commencé à perdre les petits morceaux, mais ce qui provoque véritablement la dislocation de l'Union soviétique, c'est-à-dire l'Union soviétique n'existe plus, c'est que son principal acteur, la Russie, c'est-à-dire la terre impériale qui faisait tout ça, parce que l'Union soviétique c'était l'Empire russe en fait, le néo-empire russe, eh bien le cœur de l'Empire décide de sortir de l'Empire. L'Empire me coûte trop cher, on a marre de payer pour tous ces gens, etc. Mais dans le « on en a marre de payer pour tous ces gens », quelle idée y avait ? Il y avait en fait l'idée russe, on en a marre de payer pour des Azerbaïdjanais, des Arméniens, des Kazakhs, des Tadjiks. C'était ça l'idée en fait, hein, qui avait clairement dans la révolution nationale russe justement. Donc il y a cette volonté en fait de se replier sur l'espace qui est déjà homogène, et de l'homogénéiser encore plus, en disant, voilà, maintenant il y en a marre, on arrête de payer pour les autres, on se regroupe entre nous, et voilà, on fait véritablement un état-nation achevé. Et encore une fois, ça c'est un truc qu'on trouve dans toutes les séquences de révolution nationale, véritablement. Cette volonté d'accélérer l'homogénéisation qui a déjà atteint un stade avancé. Et alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on retrouve ça aussi. Vous retrouvez ça aussi, précisément, pendant la dernière révolution qui a connu la France, c'est-à-dire à la Libération et dans les années 50, c'est-à-dire sous la 4ème République. Tout le mouvement de décolonisation, justement, a trouvé un écho favorable à l'intérieur de la population française qui voulait, au fond, se débarrasser de tous ces espaces-là pour rester entre autochtones, finalement, en France métropolitaine. Il y a cette idée-là. Et elle s'est notamment développée, elle est restée connue sous ce qu'on a appelé le cartiérisme. Cartiérisme, ça vient du nom de Raymond Cartier, qui était directeur du journal Paris Match, et à qui on a attribué cette formule que vous avez peut-être entendue, dont j'ignore si elle était de lui, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Qui est une formule amusante, mais bon, la France n'a jamais eu de colonie aux Zambèzes, mais c'est pour la rime. C'est-à-dire, en gros, la France plutôt que l'Afrique. Alors, il faut arrêter l'idée, hein, c'était tout simplement, en pleine Trente Glorieuse, faut arrêter de balancer du pognon dans des infrastructures en Afrique. Et de fait, il faut se rendre compte à quel point, encore une fois, hein, je renvoie à Jacques Marseille sur le détail de à quel point la colonisation a coûté cher à la population, à la France, ça a enrichi certains, mais ça a coûté cher à l'essentiel. Alors que je me trompe pas dans le chiffre parce que je l'ai noté, l'aide à la reconstruction que la France a touchée de la part des États-Unis dans les années suivant la libération, donc sous la 4ème République, il faut bien vous rendre compte que ça représentait. Je vais vérifier le chiffre, mais je suis à peu près sûr que c'est ça. Ça représentait le tiers des sommes qui ont été investies dans les colonies africaines dans les 10 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que souvent, vous savez, on dit, en gros, soit on s'est reconstruit grâce à l'argent américain ou il y a des trucs comme ça, mais non, il faut bien se rendre compte que, voilà, je vous le truc, c'est sur Wikipédia, hein. À titre d'exemple, le montant des investissements publics de la métropole dans les colonies françaises entre 1945 et 1960, c'est-à-dire l'argent qu'on a utilisé pour aller développer les colonies essentiellement en Afrique, pendant cette période-là, pendant ces 15 ans, s'est élevé à 32,5 milliards de francs or, soit, c'est le double de l'aide américaine à la reconstruction. Je vous ai dit trois fois, c'est le double de l'aide américaine à la reconstruction versée à la France. C'est-à-dire que si vous le voyez sous cet angle-là, la totalité de l'argent que les Américains nous ont donné pour reconstruire le pays a été envoyée dans les colonies africaines, et on a encore doublé cette somme. Pour vous rendre compte à quel point la métropole s'est saignée pour cet espace-là. Et ça a nourri le mécontentement de la population, et ça a favorisé donc cette idée, encore une fois, la Corrèze plutôt que le Zambèze, c'est-à-dire l'idée on devrait garder l'argent pour développer le territoire français. Et de fait, c'est ce qui a commencé à être fait à partir de la fin des années 50 et sous De Gaulle notamment, avec la fin de l'Algérie naturellement, mais aussi le désengagement de l'Afrique. Et donc la fin des colonies signifie surtout la fin d'arrêter de balancer du pognon là-bas pour l'investir en France. Et ça a donné tout ce que vous savez, hein, le parc nucléaire, le téléphone, l'électrification de la totalité du réseau en France. Tout cet argent qu'on n'a dépensé plus dans les colonies, on s'est mis enfin à le dépenser sur le territoire français. Mais ça, c'est important à comprendre, c'est typiquement le genre de choses qu'on fait dans le cadre d'une révolution nationale. C'est l'idée, on garde notre argent pour faire des trucs chez nous. On laisse tomber parce qu'il y a une volonté de lâcher l'Empire. Voilà, l'Empire, ça coûte trop cher, ça sert à rien. En plus, l'Empire, souvent, c'est quelque chose qui profite aux élites. Donc, à partir du moment où vous avez le peuple qui dégage les élites de l'ancien régime pour les remplacer, lui, il n'a aucun argent à les prendre dans l'Empire. Donc, ce qu'il peut faire, c'est garder l'argent ici, parce que l'argent, en fait, des contribuables, sert aux élites à aller briller et à se faire un statut dans l'Empire, au détriment de la population métropolitaine. C'est toujours pareil, hein, du contribuable local. Bon. Et vous savez que je vous explique souvent que dans le consumérisme-immigrationnisme, c'est la même idée, sauf que vous le faites à domicile. C'est-à-dire que vous faites venir les colonies chez vous, et vous prenez l'argent des autochtones pour le distribuer et pour faire tourner la machine sur le plan de la consommation. Bien. Enfin, vous prenez l'argent des contribuables, ou vous prenez l'argent des marchés, hein, par l'emprunt, en vous appuyant sur la solvabilité de vos contribuables. Mais ça revient au même, puisque ce sont vos contribuables qui sont endettés ensuite. Donc il faut bien comprendre ça, et moi, pour moi, cette idée de lâcher précisément l'Algérie, il y a ça. C'est une sorte de néo-cartiérisme. Et je pense que ça va bien au-delà de ça. Ça va dans tout le discours qui se déploie aussi sur l'aide française au développement. C'est la même idée. Pourquoi on balance du pognon comme ça ? C'est ce qui se déploie aussi dans la multiplication des scandales à propos notamment des mairies, puisque vous savez qu'il y a plein de mairies, j'en ai parlé récemment, qui balancent des centaines de milliers d'euros pour aller financer des investissements en Afrique, à Brazzaville ou je ne sais quoi. Bon, tout ça, c'est des trucs d'anciens régimes finissants qui cherchent à maintenir l'Empire, alors que la population n'en veut plus. Et donc, je pense qu'on va aller vers quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce vote qui a été obtenu par le RN, le fait que via le Parlement et la reparlementarisation, il y ait comme ça une petite volonté populaire qui arrive à se frayer le chemin et à s'imposer timidement, parce que ce n'est qu'une résolution, mais ça dit quelque chose. Et ça avance clairement dans ce sens-là. Et je pense que la révolution telle qu'elle aura lieu ira dans ce sens-là. Il faut se rendre compte que d'ailleurs ça a commencé. On s'est fait expulser de tout un tas d'endroits, en Afrique, mais en fait le truc, c'est que les Français ne veulent pas y revenir. Personne n'a envie de retourner faire des trucs au Mali, au Niger, tout ça. Il y a l'idée qu'ils se débrouillent. De plus en plus, il y a des gens qui se disent que c'est bien la peine de s'emmerder comme ça avec la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, c'est un sujet, Le Cornu en a reparlé régulièrement, qui sera débattu bientôt. Et à mon avis, on verra s'exprimer à cette occasion-là aussi une sorte de néo-cartiérisme qui dira mais on n'a pas besoin de ça, ça suffit, on arrête de balancer du pognon dans ces trucs-là. Et tout ça, c'est cohérent, encore une fois, avec une révolution nationale. C'est-à-dire cette volonté de revenir sur le territoire le plus homogène et lâcher la partie la moins homogène du territoire. Encore une fois, c'est ce qui s'est passé avec l'URSS. La Russie a voulu se détacher de tout ça. Alors après, vous avez souvent un second mouvement qui est le fait de ne pas vouloir tout perdre quand même. C'est ce qui s'est passé encore une fois avec la Ve République, avec la mise en place de la France-Afrique en dépit de la décolonisation pure. Mais c'est plus au même niveau. Et surtout, si, normalement, si vous ne rebasculez pas dans une espèce de néo-ancien régime, ce n'est pas censé se déployer comme ça l'a fait chez nous. Alors que la France-Afrique n'a cessé de croître et de prospérer sous toute la Ve République. À tel point que j'en ai déjà parlé, à mon avis, fréquemment, il y a des histoires de petites enveloppes en papier craft qui reviennent quand les gens font mettre des centaines de milliers d'euros en Afrique. À mon avis, c'est pas perdu pour tout le monde, si vous voulez. Et ça serait assez classique du genre de corruption qui peuvent animer les sociétés, notamment les élites d'anciens régimes. Donc on est vraiment, pour moi, face à ce type d'évolution-là. Et le fait que vous ayez le cœur du pouvoir, c'est-à-dire Emmanuel Macron et son entourage, qui est radicalement opposé à ça, à cette mutation, à cette volonté de confrontation finalement avec l'Algérie, et de l'autre côté, parce qu'il y a aussi un côté humiliation nationale, hein, dans la façon dont on se fait traiter par l'Algérie, il ne faut pas se le nier, hein, accepter de se laisser parler comme ça, pour des motifs qui en plus sont assez douteux, parce que l'explication qu'on entend souvent, c'est le fait qu'on a besoin de l'Algérie pour du renseignement. Pour du renseignement. Alors, on a besoin de l'Algérie pour du renseignement, d'accord. On a besoin de l'Algérie pour du renseignement. Pourquoi ? Pour éviter du terrorisme chez nous, a priori, c'est pas la priorité. La réalité, c'est qu'apparemment, on avait surtout besoin de renseignement avec eux en raison de notre action au Sahel, justement. Parce que c'est là-dessus qu'ils nous aidaient. Bon. À partir du moment où le Sahel, on s'en occupe beaucoup moins, qu'on a été jeté par les mecs du Mali, etc., le fait d'avoir besoin de renseignements de l'Algérie pour avoir des renseignements dans cette région-là, ça nous concerne moins. Surtout que, comme si vous suivez le bulletin, vous devez le savoir, il y a des tensions régulières qui existent entre précisément les États du Sahel et l'Algérie, parce qu'il faut savoir que l'Algérie est en bisbille avec à peu près tous ses voisins, hein, ils sont insupportables avec tout le monde. Notre intérêt, c'est plutôt de laisser les Algériens se démerder avec les gens du Sahel plutôt que de continuer à leur servir la soupe pour avoir des renseignements sur la région. Et si jamais, c'est à propos du renseignement sur les réseaux, sur notre propre territoire à nous, ben là, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème et il y a un calcul qu'il faut faire, en tout cas qu'il faudrait au moins formaliser pour que les gens sachent qu'il faut faire ce calcul. Quel est ce calcul ? Le calcul, il est, mettons, si on n'a plus le renseignement de l'Algérie parce qu'on se fâche avec eux, on va avoir une hausse du risque terroriste chez nous, mettons. D'accord, très bien. Par contre, si on a une hausse du risque terroriste, mais une diminution drastique de l'immigration algérienne en France, il faut se rendre compte que l'immigration algérienne en France, ça représente une bonne partie des centaines de milliers de personnes qui arrivent chez nous chaque année, et que sur ces centaines de milliers de personnes, vous en avez un petit pourcentage qui sont des délinquants, et qui vont venir nourrir la délinquance en France. Tout à fait net. Hein. Les stratégies, je renvoie à ce qu'avait fait Marc Vanguard là-dessus sur X. À un moment, il faut se poser la question, est-ce que le risque qu'il soit plus difficile de déjouer un attentat ou deux par-ci, par-là, est un risque vraiment très supérieur au fait de vous taper 2 ou 3 000 ou 4 000 ou 5 000 ou 6 000 délinquants habituels de plus chaque année qui arrivent sur le territoire. Parce que ça crée d'énormes dommages, ça aussi. Ça crée dommages, ça peut faire des morts aussi, d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est pas équivalent à une menace terroriste ? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse certaine là-dessus, mais il faudrait avoir des chiffres là-dessus. Il faudrait que ce soit discuté. Or, vous avez vu que sur les chiffres, de toute façon, il y a eu la séquence Nunez qui a été très intéressante là-dessus, où il a fallu plusieurs émissions pour arriver à lui faire cracher le fait qu'il y avait vraisemblablement 700 000 personnes immigrées clandestines en France, et encore. C'est pas sûr. Enfin, à la base, il disait 300 ou 400 000. Puis il admet deux jours après que c'était en réalité c'est probablement le double, et vous vous demandez si c'est pas encore le double, mais qu'il aurait fallu une autre émission pour lui faire dire. Donc tout ceci vient nourrir aussi le débat, et ça va jouer, je pense, dans le pourrissement du contexte intellectuel de la nation. Voilà, mais je voulais vraiment alerter votre... parce que j'ai souvent fait des émissions pour décrire tel ou tel aspect d'une révolution nationale, toujours en insistant sur le fait que la révolution c'est loin d'être simplement cantonné à quelques mutations institutionnelles, c'est des choses beaucoup plus profondes sur le plan économique, etc., le plan politique, mais aussi sur cette vision de l'identité nationale. C'est important, et en général, la Révolution nationale porte une volonté de resserrement de l'identité sur la part la plus homogène de la population, avec un refus, parfois même, de certaines provinces qui appartiennent, mais dont on ne veut plus parce qu'on estime qu'elles sont étrangères et que tout ce qu'elles font, c'est fournir un flot de personnes extérieures. Et encore une fois, ça a été le cas en France aussi. Hein. Je renvoie à ce que j'ai déjà dit maintes fois sur l'antiméridionalisme de la Troisième République. Vous aviez des gens, au début de la Troisième République notamment, encore une fois, autre révolution hein, en 1871, qui était très hostile aux Français méridionaux. Alors, il n'a pas été question de resserrer la France sur le bassin parisien, si vous voulez, mais voilà, il y avait une part de la dynamique qui était là, malgré tout, de cette volonté de resserrer sur la part la plus homogène du territoire et de l'identité nationale. Il y avait une autre chose dont je voulais vous parler qui m'a traversé l'esprit au début de mes développements et je suis plus sûr de l'avoir en tête. Alors ça va peut-être venir, j'avais peut-être mis dans mes notes parce que je vous ai parlé de ça, je vous ai parlé de l'évolution. Oui, voilà, près d'un Français sur deux qui considère. Alors, c'est plus, je vous ai dit qu'ils pensaient que le RN allait finir par diriger le pays, donc ils pensaient que le RN était capable de diriger le pays. Donc, c'est presque un Français sur deux qui pense ça. Et un peu plus d'un Français sur deux, mais il y a peut-être une marge d'erreur, qui pense que il pourrait voter pour le Rassemblement national. Voilà, bon, je vais voir si ça me revient en tête ce que je voulais évoquer de plus. Je vais jeter un petit œil sur. Alors, pour commencer, oui, vous savez que nous avons un nouveau truc qui est que il faut pas hésiter à pousser. Je ne sais pas si vous avez beaucoup poussé. N'hésitez pas à mettre des pouces sous les vidéos, c'est extrêmement important pour booster l'algorithme. 164, vous êtes 600, hein. Je pense qu'on peut faire mieux, vous pouvez facilement dépasser les 300, il suffit qu'il y en ait un sur deux qui pousse. Et je vous rappelle qu'il faut aussi mettre des commentaires sous la vidéo, après, aussi pour booster, mais également parce que, ce moyen d'avoir une réponse à une question gratuite, la question la plus likée sous le live, en commentaire, donne lieu et m'est posée au live suivant. Et la question qui avait été posée la semaine dernière, c'était une question de Blanche de Castille, 5013. Après les retraites, serait-il possible d'avoir une analyse sur le poids financier insoutenable de l'invasion migratoire ? On a déversé des milliards depuis des dizaines d'années à fonds perdus. Un vrai tonneau des Danaïdes, bien pire que les retraites. Gérard Pince a fait une bonne analyse à ce propos en son ouvrage. Alors, je ne connais pas ce monsieur Gérard Pince. Ou en tout cas, là, ça ne me dit rien. Est-ce que ça coûte très cher ? Oui. Est-ce que ça coûte aussi cher, bien pire que les retraites ? Non. Ça ne coûte pas bien pire que les retraites dans les volumes. Par contre, alors, tout dépend. Si vous considérez que les retraités, eux, méritent une partie de ce qu'ils touchent, alors que l'immigration, elle consiste à donner déjà de l'argent à des gens qui ne l'ont pas forcément mérité a priori, ça peut se discuter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement un coût de l'immigration sur tout un tas de sujets. Un premier sujet qui est le sujet ethnoculturel, justement, qui est la réhétérogénéisation du corps social. Et puis ensuite, bien sûr, c'est le coût du consuméro-immigrationnisme. Mais ça, pour le coup, j'en ai déjà parlé maintes fois en expliquant que c'est l'infrastructure économique de la Ve République. Et que vraisemblablement, la chute du régime devrait y mettre fin, comme elle a mis fin précisément au colonialisme jadis. Ça ne veut pas dire expulser toute la population immigrée des 50 dernières années, bien sûr, ça n'arrivera pas, et ce n'est même pas souhaitable pour une bonne partie d'entre elles. Sur une partie des derniers arrivants, et notamment ce million de clandestins qui sont là en France, là forcément la question se pose et va finir par se poser, très clairement. Alors, petit coup d'œil sur, sur l'actualité dans le chat. Madame Tournevis, qui nous rejoint au soutien de la chaîne comme frère historionome, je la remercie. Martin, merci pour le don, qui dit bonsoir Philippe, y a-t-il sélection naturelle des idées à gauche pour les exclus, communisme puis islamo-indigénisme, ou bien certaines idéologies deviennent-elles hégémoniques trop rapidement? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Je vois pas ce que ça serait trop rapidement. Normalement, ce qui devient idéologie hégémonique, c'est l'idéologie qui est la plus proche et la plus apte à servir les intérêts de la classe d'exclus, de la nouvelle classe d'exclus, précisément. Donc normalement, elle arrive pas, elle devient pas hégémonique trop rapidement. Elle doit devenir hégémonique à la vitesse à laquelle la classe d'exclus s'impose petit à petit. Pour moi, c'est comme ça que les choses se font. Donc, voilà, je suis un peu embêté de pouvoir faire sélection naturelle des idées. Oui, il y a une sélection naturelle, puisque ça va être celle qui répond le mieux, encore une fois, à la classe d'exclus, qui est sélectionnée. Mais je ne vois pas d'idéologie qui devienne hégémonique trop rapidement, ou alors qu'elle ne repose pas sur une classe d'exclus. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Mais n'hésite pas à repréciser ta question si j'ai mal répondu ou si ça te soulève une autre question. Rudolf Millet, merci pour le don. Possible de mettre à jour le lien Discord pour les souscripteurs sur YouTube. Le lien est actuellement expiré ou invalide. Alors, notre cher Iruma m'indique, je te l'envoie après le live, même s'il sert surtout de salon vocaux pour le Telegram. Ouais. Moi, le Discord, j'interviens pas parce que j'ai beaucoup de problèmes avec Discord. J'ai jamais aimé ça. Je sais pas pourquoi je trouve ça pas commode. Bah. Mais en tout cas, on va se débrouiller pour le mettre à jour. Hiro m'indique aussi, mais ça je l'ai vu avant de commencer l'émission, qu'il y avait Clément Machi, ou Machi, je sais jamais comment ça se prononce, sur X qui disait qu'à 22h30, il y avait un sondage qui allait sortir. Donc peut-être qu'on va attendre 22h30 ou alors on le commentera dans le. C'est 22h30 pile ou c'est vers 22h30 parce que si on n'est pas sûr de l'heure. Sinon, on le commentera dans le live des privés souscripteurs. Dominique, merci pour le don, qui me demande donc, Poutine pourrait revenir sur 1991 dans la Baltique. Ben, c'est ce que fait souvent l'impérialiste revanchard. Ce qui caractérise l'impérialiste revanchard en général, c'est que il revient sur ce que la révolution nationale a abandonné. C'est-à-dire la révolution nationale, dans un premier temps, se replie de l'Empire, avec le corps national qui en gros dit on a marre de payer, faut qu'on s'occupe de nous, etc. Et ensuite, l'impérialiste revanchard, c'est un petit peu la pulsion inverse qui vient en disant mais non, merde, après tout, tout ça c'est à nous, faut le récupérer. C'est ça l'impérialisme revanchard en fait. C'est un impérialisme qui est revanchard, qui veut rétablir l'empire qui a été perdu, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la France-Afrique sous De Gaulle, hein. La mise en place progressive de la France-Afrique après la décolonisation en Afrique, c'est typiquement de l'impérialisme revanchard. Et c'est pas étonnant parce que le régime gaulliste est un régime impérialiste revanchard. Et ce que font les Russes dans leur étranger proche, justement, et ce qu'on appelle réunir le monde russe sous autorité russe, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, sur les pays baltes, typiquement, c'est ça qui se passerait. Comme ça se passe en Ukraine d'ailleurs. C'est exactement la même logique. Voilà. Donc c'est une pulsion un peu inverse finalement, ou réactive de la révolution nationale elle-même. Je vais aller faire un petit tour sur Tipeee aussi pour saluer d'éventuels nouveaux soutien. Je rappelle, n'hésitez pas à nous soutenir. Faut vous rendre compte, vous êtes, il y a à peu près 10% des gens qui regardent absolument tout le contenu gratuit, qui représente, je vous ai dit déjà quoi, entre 4 et 6 000 personnes, autour de 5 000 personnes, qui regardent la totalité du contenu gratuit, c'est-à-dire que les gens, quand ils regardent un live, ils restent, ils sont toujours là à la fin du live. Donc je ne parle pas des gens qui vont regarder la moitié des émissions, qui s'en vont au bout de 5 minutes, etc. Je ne parle pas des vues, je parle des gens qui regardent tout, qui regardent intégralement. Il y a à peu près 5 000 personnes. Actuellement, il y a 10% qui nous soutiennent. Il suffirait qu'il y ait une personne sur quatre de ces gens qui regardent absolument tout, donc en plus je veux dire c'est pas qui nous soutiennent, et pas forcément qui nous soutiennent à des niveaux extraordinaires, juste qui donnent un petit peu, une personne sur quatre, et très honnêtement je serais pas loin d'arrêter pour me consacrer à l'histoire, c'est extraordinaire. Simplement on en est encore loin, donc c'est pas possible, mais voilà, pensez-y, hein. Ou même il suffirait à la limite que la totalité de ces gens qui regardent absolument tout me soutiennent pendant juste un quart de l'année, et les trois quarts de l'année non, ce qui est arithmétiquement serait la même chose, pareil on en serait là, donc n'hésitez pas, pensez-y, encore une fois je vais pas aller demander du pognon à tous les gens qui passent etc, mais les gens qui sont là systématiquement surtout et qui profitent d'absolument tout. Alors il y en a peut-être une partie qui rage watch, hein, qui supporte pas et qui regarde juste pour s'énerver ou pour se foutre de ma gueule, mais je pense quand même que ça représente pas plus de la moitié, donc ça veut dire que il faudrait la moitié de l'autre moitié, c'est-à-dire celle qui est vraiment là parce qu'elle apprécie, qui soutient, et ça serait pas mal, et même qui soutient juste avec des petits types, hein, c'est pas la peine d'aller très loin, et ça nous aiderait bien. Alors, et précisément, alors c'est pas par là, je me suis trompé, c'est là, si ça veut s'ouvrir. Docteur Sherlock qui nous fait coucou alors qu'il est membre depuis 3 ans maintenant, on le félicite, bon anniversaire et merci à toi. Nouveau type mensuel de Lyrt qui donne toujours son joli type sans rien dire, juste dans le silence comme ça avec un petit signe de tête classe, ça c'est toujours sympa. Alors est-ce que je vais regarder, est-ce qu'il y a du nouveau sur le X de du dit Clément. Je regarde ça tout de suite. Non, il dit sondage présidentiel ce soir à 22h30, restez connectés. Donc pour l'instant non. Ah, Hiruma me dit qu'il rafraîchit en boucle, qu'il est devant la page, mais qu'il y voit rien. Ça m'énerve parce que je suis sûr que je voulais vous dire autre chose que j'ai pas noté, qui m'est venu à la base juste avant l'émission, et je crains de venir penser que par esprit d'escalier, ou peut-être pendant le live privé des souscripteurs, mais ça pourrait mettre, je sais pas, est-ce qu'on a une question choix, mon cher Hiruma, peut-être que ça m'inspirera, ou est-ce que Martin a pu préciser sa question, vu que j'étais pas sûr d'avoir répondu bien dessus. Histoire de pas le laisser le bec dans l'eau, j'aime pas laisser les gens qui font des dons avec une demi-réponse, c'est pas très correct. Ah voilà. Justement, alors, ma question c'était pourquoi le communisme et pas autre chose ? Pourquoi l'islamo-gauchisme ? Y avait-il des concurrents ? Ah oui, le communisme, c'est très intéressant, justement, ça donne un bon modèle. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je crois que je l'ai fait dans un papier. Le communisme, pourquoi ça a fonctionné ? En fait, il y avait autre chose. Il y avait autre chose qui s'est développée pendant le 19e siècle en même temps, c'était l'anarchisme. Et même pendant longtemps, on a parlé d'anarcho-communisme d'ailleurs, justement. Quelle était l'idée de l'anarchisme quand vous écoutiez des gens comme Bakounine ou Netchaïev, des gens comme ça ? Leur idée, c'était l'État écrase les gens, etc. Il faut tout péter. Il faut tout péter, il faut détruire l'ordre bourgeois. On ne se pose pas la question de savoir ce qu'on construira derrière, mais il faut tout péter. D'accord ? Pour en finir avec ça, avec l'ordre bourgeois. Bon, ça, c'était l'idée des anarchistes. Donc, il faut tout casser. Et ensuite, vous aviez l'idée des communistes. Les communistes, alors plutôt marxistes, parce qu'en fait, l'idée des anarchistes, c'était ça donnera naissance au communisme. C'est-à-dire tout sera à tout le monde, la propriété sera abolie, privée sera abolie, l'ordre bourgeois sera aboli, mais ensuite on verra. Il n'y a pas de plan, on verra ce qui se passera. Et donc, ça donnera naissance à une autre société, si vous voulez, une société dans laquelle il n'y a pas de propriété, une société communiste. C'était l'idée des anarchistes. L'idée des marxistes, c'est ça qui est important surtout, parce que bon, les anarchistes étaient des communistes comme les autres, mais l'idée des marxistes, parce que c'est ça, c'est le marxisme véritablement qui va supplanter l'anarchisme à l'extrême gauche. L'idée des marxistes, c'était de dire voilà comment ça va se passer. Il faut qu'il y ait une révolution qui instaurera une dictature du prolétariat, c'est-à-dire des ouvriers, c'est-à-dire de la classe d'exclus. C'est ce prolétariat qui instaurera sa dictature, et c'est ça qui fera la transition vers une société communiste autogérée. Vous savez, c'est ça l'idée. Donc le but final, si vous voulez, était le même but que celui des anarchistes. C'était cette espèce de société autogérée communiste. Mais la supériorité intellectuelle, en tout cas, comment dire, commerciale, de réponse du cahier des charges politique du marxisme, c'est de s'adresser en priorité à la classe d'exclus, c'est-à-dire les ouvriers, et leur dire « c'est vous qui allez prendre le pouvoir pour établir votre dictature ». Et ça, c'est facile à comprendre. Dictature du prolétariat, tout le monde voit ce que c'est. Juste tout péter, c'est très difficile à conceptualiser. Vous dites « d'accord, mais on commence par quoi? Quand est-ce qu'on a fini? Quand est-ce qu'on saura ?» etc. Alors que Marx, il vient de dire « c'est comme ça que ça se passe, dictature du prolétariat, et ensuite le reste viendra ». Donc il y a une idée, si vous voulez, qui va. Donc c'est plus facile à la fois à vendre politiquement, parce que les gens voient à peu près à quoi ça correspond, et en plus, vous vous adressez directement, vous le vendez à la classe d'exclus, c'est-à-dire les ouvriers, le prolétariat, pas juste aux autres, mais vraiment vous misez dessus. Et donc c'est ça qui a fait que le marxisme, le communisme marxiste, ce qu'on appelle aujourd'hui le communisme marxiste, s'est imposé sur l'anarchisme parce qu'il avait une idée plus claire, plus vendable, si vous voulez, et en même temps, elle s'adressait directement à la population visée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi alors l'islamo-gauchisme? En réalité, c'est plutôt l'islamisme dans le gauchisme. En réalité, l'islamo-indigénisme, parce que ça peut aussi s'adresser aux gens qui ne sont pas musulmans, mais qui se perçoivent comme assimilés du fait qu'ils sont... Mais justement, à la limite, l'équivalent de l'anarchisme, c'est l'intersectionnalisme, l'intersectionnalité des luttes, le fait de rassembler toutes les minorités pour lutter, etc., pour aller vers quoi, on ne sait pas trop, mais le wokisme, si vous voulez, en général, c'est l'équivalent de l'anarchisme. Alors que l'islamisme, c'est l'équivalent du marxisme, l'islamo-indigénisme. C'est-à-dire que vous vous adressez aux populations immigrées et vous dites, il faut que vous preniez le pouvoir. Voilà, vous, en tant que groupe ethnique. Très simple. Et ensuite, ça ouvrira éventuellement la libération de toutes les minorités, etc. Mais vous prenez le pouvoir. Donc on est dans le même schéma que ce qui s'est passé pour les communistes, pareil. Donc, il y a effectivement une sélection naturelle, et elle s'opère sur ce que je vous disais avant, l'idéologie qui parle le plus directement et exclusivement à la classe d'exclus, et qui donne un but politique simple. Voilà. Parce que c'est facile à poursuivre, facile de communiquer là-dessus, si vous voulez, tout simplement, parce que les gens voient de quoi vous parlez. C'est pas une espèce de futur éthéré, voilà. Donc, j'espère avoir répondu correctement. Question choix. Pouvez-vous mettre aussi un lien Tipeee Stream pour qu'on puisse payer par PayPal? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un lien Tipeee Stream. je sais ce que c'est un PayPal. On pourrait mettre un lien PayPal, mais le Tipeee Stream, je ne sais pas ce que c'est. Je vais m'enseigner. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment une question choix, Marvin. Ça. Alors, je vois qu'il est 22h31. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que c'est sorti? Ou est-ce que fausse promesse et petit retard sur le calendrier? Je rafraîchis à mon tour. Ah, ça y est, il y a 50 secondes, c'est arrivé. Bardella, 35% plus 4. Édouard Philippe, 15,5 moins 5. Ce qui est le deuxième, il est derrière avec 20 points de moins. Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon, 12,5% plus 3. Raphaël Glucksmann, 11%. Il a fait plus 0,5. Bon, je vous donne pas l'évolution pour les autres. On a Retailleau à 8%, Zemmour à 4,5% et Marine Tondelier, une autre Marine est possible, à 4,5%. Alors elle est en progression, elle a fait plus 1, mais c'est pas génial. Donc on a Mélenchon qui est en progression quand même, mais Bardella surtout qui continue à monter. Et donc on a 35%, 15%, 12,5% pour Mélenchon. Et donc effectivement le seuil de qualification est à 15,5% puisque c'est là que Édouard Philippe y est. Ça fait un seuil de qualification assez bas. Bon, en même temps, le problème, c'est toujours de savoir qui sera effectivement candidat. Hein, parce que ça peut. Mais bon, il y a peu de gens qui sont susceptibles de prendre des voix à Bardella à partir du moment où il y a un candidat LR de toute façon. Alors, ah d'accord, dans la configuration, il y a aussi Villepin qui viendrait prendre 3 points. À mon avis, il les prend plus à Mélenchon qu'ailleurs. Dupont-Aignan qui est toujours là, qui ne lâche jamais l'affaire, décidément. Son business hein, personnel, et de toute façon, c'est là-dessus qui est. Fabien Roussel qui se présentera encore tout seul. Et donc, Glucksmann, ça serait pour les socialistes. Moi, je veux bien, mais je comprends pas la légitimité de Glucksmann. Pourquoi Glucksmann plutôt que Faure ou que Valo comme candidat socialiste? Je pense que Faure et Valo doivent se poser la question, en tout cas. Parce que il n'a pas fait des étincelles qui permettraient d'eux, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Rassemblement National est très au-dessus. Une autre chose que je voulais dire, je ne suis pas sûr que c'est ce que je voulais vous dire au début de l'émission, mais qui me paraît également important, c'est toujours cette idée, Olivier Faure qui expliquait l'autre jour que la question de la taxe Zucman, à partir du moment où elle a été refusée par l'Assemblée nationale, ben, du coup, ce serait une question pour le débat des présidentielles. Mais qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est pas le président qui fait la loi, c'est le Parlement. Donc ça serait une question éventuellement pour les prochaines législatives, mais pas pour les prochaines présidentielles. Pourquoi ça serait dans le débat présidentiel la question de savoir? C'est extraordinaire. Ces gens ne comprennent pas. C'est là que vous apercevez que les socialistes, en fait, sont encore plus sont plus attachés au présidentialisme à la Ve République que le reste de la gauche. Et donc ils sont plus conservateurs de la Ve République que le reste de la gauche. Ce qui transparaît effectivement, comme je l'ai déjà dit, dans leur soutien au gouvernement Lecornu, et le fait que, en réalité, c'est l'autre parti de la Ve République. Il y a les LR et le Parti Socialiste. Ce sont les deux partis de la Ve République, et celui d'ailleurs qui noyote toutes les grandes instances. Mais c'est ce qui est surtout terrible et impressionnant, moi c'est pas tellement ça, c'est que personne ne leur répond ça. Personne ne dit « mais de quoi tu parles? Pourquoi ça serait un débat pour les présidentielles? Pourquoi on continue à dire « tout ça c'est un débat pour la présidentielle? Pourquoi est-ce que quand on va élire un mec, alors qu'on est vers une reparlementarisation, pourquoi c'est un mec qui ne pourra pas voter le... » Parce que ce qui apparaît de plus en plus, à peu près certain en plus, c'est le fait qu'il n'y aura plus, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y aura plus de majorité parlementaire tant qu'il n'y aura pas eu de modification importante du soubassement. Puisque la structure électorale du pays, désormais, fait que le mode de scrutin qui est fait pour dégager des majorités absolues ne dégage plus de majorité absolue. Pour des raisons géographiques, notamment, et d'opposition entre les villes et les périphéries. Donc à partir du moment où vous pouvez avoir une autre élection présidentielle, elle ne changera rien, elle ne donnera pas de majorité. Et s'il n'y a pas de majorité, vous n'obtiendrez pas votre taxe Zucman. Vous pouvez avoir un président de la République socialiste qui est élu, et derrière un Parlement qui ne vote pas la taxe Zucman parce qu'il n'y a pas de majorité. Donc voilà, tout ceci n'a pas grand sens. En tout cas, malgré tout, ben, la parlementarisation se poursuit. Elle a un effet de politisation, puisque maintenant c'est quand même très intéressant, mais... Parmi les effets annexes de politisation, je vous ai dit, la parlementarisation, ça implique aussi une conscientisation politique de la population. Vous avez désormais toutes les semaines sur BFM TV des émissions face aux Français où vous avez des gens comme ça, des vrais gens, qui viennent parler de politique devant tout le monde. C'est comme ça que Gabriel Attanzio est sorti, qu'il y en a d'autres, donc il y a des figures comme ça qui peuvent émerger. Mais en soi, c'est extrêmement intéressant parce que le fait que des chaînes d'information se mettent à organiser ce genre de débat. Je veux dire, ça arrivait, mais ça arrivait juste avant une élection, un truc comme ça, pour prendre le pouls. Là, désormais, c'est devenu hebdomadaire. Je crois que c'est Switek qui présente ça. Et ça serait pas mal d'ailleurs qu'on voit de plus en plus de formats de ce genre-là, parce que ça amène les gens, et alors c'est très important parce que ça donne lieu à des extraits qui ensuite sont publiés, qui sont débattus sur X, et l'opinion se fait, et l'opinion se transforme. Donc il est en train de se passer quelque chose, il y a une maturation qui continue, il faut bien se rendre compte de ça. Cette phase n'est pas purement stérile. C'est une phase qui amène la politisation des gens, qui amène les gens à se former sur tout un tas de questions techniques, alors peut-être mal, peut-être, mais mieux que s'ils n'en avaient pas du tout entendu parler, ce qui était le cas avant. Donc on est en train, de toute façon, d'aller vers une reparlementarisation du régime par formation et apprentissage à marche forcée de la population, en tout cas, certes, pas de toute la population forcément, mais d'une part plus importante de la population que ce n'était le cas avant. Je pense qu'aujourd'hui en France, vous avez une part de la population plus importante qu'il y a 10 ans qui est politisée, qui a des idées politiques, qui s'intéresse techniquement à des sujets et qui a un avis à peu près éclairé dessus. Vous voyez ? Ça n'a jamais été la totalité de la population qui se soucie de ça, de tout temps. Mais vous avez plus ou moins une partie importante de la population qui s'en occupe, et vous aviez une partie de la population qui, je pense, était dépolitisée, qui se repolitise par ce biais-là. Alors, il y a, semble-t-il, de nouvelles hypothèses. Et là, c'est l'hypothèse Le Pen-Attal. Donc quoi, il n'y aurait pas Édouard Philippe, là, dans ce truc-là ? D'accord. Alors, dans l'hypothèse Le Pen-Attal, nous avons Marine Le Pen qui est à 34%, Gabriel Attal qui est à 12,5%. Ah ouais, le seuil est super bas, là. Glucksmann qui est à 12%, Mélenchon à 11,5%, Retailleau à 8%, Knafo à 6,5%, Tondelet toujours 4,5% et Villepin à 4% dans ce truc-là. Dans les deux cas, le Rassemblement National écrase le premier tour, quoi. Il écrase le premier tour avec un LR qui résiste autant que faire se peut, puisque il serait quand même avec le double du score de Pécresse pratiquement, ce qui est pas mal. Mais c'est absolument dingue, quoi, ces scores maintenant du Rassemblement National. Je veux dire, ça. C'est... Et ça aussi, c'est un autre truc intéressant, et je vais peut-être terminer là-dessus. C'est le fait que, vous savez, depuis l'année dernière, notamment, je crois, je vous avais parlé du fait que, vraisemblablement, plus on s'approcherait de 2027, plus il y aurait une peur de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National dans les élites, et dans un certain nombre de gens très installés, qui chercheraient à tout prix à prévenir, en sachant qu'ils sont pratiquement plus capables d'empêcher la victoire électorale, de vider de leur substance les pouvoirs qui pourraient être pris par le Rassemblement National. Et c'est comme ça que je vous avais dit qu'il était vraisemblable qu'une perspective d'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen pousserait les gens à décider de diminuer, de rabaisser la fonction présidentielle. Et vous avez déjà des gens qui y pensent, puisque vous avez, je crois, des sénateurs socialistes qui envisagent de faire une, ou qui a déjà déposé une proposition de loi qui serait apparemment une modification constitutionnelle. Malgré tout, bonne chance pour arriver à la faire adopter, mais ça dit quelque chose du climat. Modification constitutionnelle qui consiste à empêcher le Rassemblement National de faire des référendums sur ce qu'il veut, et donc à amputer le pouvoir présidentiel. Ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, ça va encore une fois dans le sens de la modification institutionnelle en raison des forces contraintes qui sont appuyées sur le régime, précisément. Je vais baisser le son parce que vous devez avoir des sons de notification de Telegram, ça va être pénible. Bien, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour du sujet de ce soir. N'hésitez pas à mettre des pouces, hein. Je crois qu'on n'est toujours pas à 300, alors que vous êtes plus de 600 en continu depuis tout à l'heure. On est toujours pareil. Imagine la proportion des gens qui ne mettent même pas de pouce, alors faut pas s'étonner après de... allez, voilà, ça, là, pour le coup ça vous coûte juste un clic, ça, on peut pas dire que ça coûte cher. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous découvrez la chaîne, ou en tout cas à aller faire un tour sur la liste des essentiels pour voir si c'est susceptible de vous intéresser. Si vous appréciez, encore une fois, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux en encourageant les gens à venir voir. Je rappelle aussi, parce que je le fais pas souvent, qu'un très bon moyen de soutenir la chaîne, c'est aussi de vous procurer mes livres. C'est aussi pour vous le meilleur moyen, le plus direct, de comprendre les concepts de l'histoire-nomie, parce que là-dessus, sur l'exposé, je suis toujours meilleur à l'écrit qu'à l'oral, selon moi. Et voilà. Mais écoutez, je vais me rendre en présence de nos chers souscripteurs pour continuer à étendre la discussion en répondant à leurs questions. Je remercie Marc, non Yann, alors je sais pas, il a deux noms différents. Yann, qui vient de souscrire et qui nous dit on ne peut pas soutenir 1000 personnes une fois. Non, on ne peut pas soutenir une fois 100 personnes. Non, c'est pas ça. Merci pour la petite référence à la Cité de la Peur. En tout cas, merci. Merci de nous rejoindre. Je vous dis à tous ceux qui ne rejoignent pas dans le live privé souscripteur, à bientôt pour de nouveaux formats. Et d'ici là, vous laissez pas faire.